Radio France Internationale, 7h à Paris, il est 6h en temps universel. Lors d'un nouveau journal, Martin Guez, bonjour.
Bonjour Nemo, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de votre édition, cette parole très rare, celle d'un prisonnier palestinien tout juste libéré par Israël.
Alors que les échanges se succèdent dans le cadre de l'accord de trêve entre l'État hébreu et le Hamas, sixième échange ce week-end. Trois otages d'un côté, 369 prisonniers palestiniens de l'autre. Vous entendrez l'un d'entre eux que notre correspondant Sami Bourelifa a pu joindre à sa sortie de prison.
Une première phase, Martin, de l'accord de trêve qui s'achève le 1er mars.
Une deuxième qui doit suivre. Les contours sont encore largement à discuter. Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir aujourd'hui. Nous ferons le point sur les dernières avancées avec Michel Paul en direct dans un instant. Présence du M23 à Bukavu confirmée par les autorités congolaises, la capitale provinciale du Sud Kivu qui fait face à une situation humanitaire très difficile, nous dira un responsable du comité international de la Croix-Rouge. Et puis à Paris, les Européens veulent se faire une place dans le dossier ukrainien. Le Premier ministre britannique Keir Starmer évoque même l'envoi de troupes britanniques sur le sol de l'Ukraine. Enfin, à la Berlinale, la star française Marion Cotillard incarne une reine des neiges glaciale dans la Tour de glace.
Un témoignage exceptionnel pour démarrer ce journal.
Celui d'un détenu palestinien libéré par Israël ce week-end lors du sixième échange entre otages et prisonniers. Trois otages israéliens contre 369 prisonniers palestiniens. Depuis le début de ces échanges, Israël reproche au groupe armé palestinien des mises en scène lors des libérations assimilées à de la propagande. Cette fois-ci, c'est l'administration pénitentiaire israélienne qui a choqué et qui a provoqué un vrai malaise en forçant les détenus palestiniens à arborer des survêtements floqués d'une étoile de David. RFI a recueilli un témoignage rare, celui d'un jeune palestinien tenant à rester anonyme, un Gazaoui tout juste libéré qui avait été emprisonné en Israël sans charge et sans jugement. Notre correspondant, Sami Bourelifa, l'a joint par téléphone.
Bilal vient de retrouver la liberté après un an passé dans des centres de détention de l'armée israélienne. Originaire de Jabalia dans le nord de Gaza, au début de la guerre il fuit avec femme et enfants vers le sud sur ordre de l'armée israélienne. Il trouve refuge à Khan Younes.
On est allé dans un centre d'accueil pour les déplacer à l'hôpital du Croissant Rouge et finalement l'armée a aussi encerclé Khan Younes. Au bout d'un certain temps, ils ont dit qu'ils ouvraient un passage humanitaire sécurisé afin que les civils puissent partir. Donc encore une fois, on a été obligé de partir. Et en sortant de l'hôpital, ils m'ont dit « Toi là, le gars avec le t-shirt rouge, viens là !»
Commence alors la descente aux enfers.
Ils m'ont mis de côté, m'ont déshabillé. J'ai été arrêté, battu, insulté, humilié, trempé par la pluie. Il faisait hyper froid. Et durant les 4 mois qui ont suivi, j'ai eu les mains ligotées. Durant les 2 premiers mois, j'avais aussi les yeux bandés. Et tout ce temps-là, il fallait rester assis, soit à genoux, soit sur les fesses, de 5h du matin à 23h tous les jours. C'est une de leurs méthodes de torture.
Et il y en a d'autres, raconte le jeune homme. La faim, mais aussi le blackout informationnel. Arrêté devant sa femme et ses enfants, il n'a aucune nouvelle d'eux. Pendant une année, il ignore tout du sort de la bande de Gaza. Son quotidien est fait d'humiliation et de châtiments corporels.
Et de négligence médicale aussi. On a tous attrapé la gale et d'autres maladies de peau. Ça peut se soigner facilement, mais ils faisaient exprès de nous laisser avec. Et certains en ont souffert pendant 6 mois à se gratter jusqu'au sang.
Sans savoir quand son calvaire allait prendre fin.
On m'a dit « ta détention est prolongée pour une durée indéterminée au motif que je constitue un danger pour l'État d'Israël. J'ai été retenu sans charge, à aucun moment je n'ai comparu devant un juge. J'ai demandé quelle charge sérieuse ou quelle preuve ils avaient contre moi et pour quelle peine. Évidemment, ils n'avaient rien. »
Selon la commission des affaires des détenus palestiniens, des milliers de Gazaouis ont été enlevés après le 7 octobre par l'armée israélienne pour servir de monnaie d'échange contre la libération des otages israéliens enlevés par le Hamas. Sami Bourelifa, Jérusalem, RFI.
Voilà, témoignage très fort à retrouver, réécouter, relire en une de notre site internet. Rendez-vous sur le www.rfi.fr.
Nous sommes le lundi 17 février et donc 500 jours après le 7 octobre 2023.
Une date tragique, date de la série d'attentats du Hamas qui ont fait près de 1200 morts sur le territoire israélien. Plus de 250 personnes avaient été faites otages. Aujourd'hui, les familles des captifs feront une grève de la faim de 500 minutes pour marquer l'événement. Alors que des négociateurs israéliens prennent eux le chemin de Doha au Qatar pour des pourparlers avant la fin de la première phase des accords de trêve. On va retrouver en direct de Jérusalem Michel Paul pour RFI. Michel, on peut parler de ce matin d'une certaine avancée sur ces dossiers.
Oui Martin, après une conversation entre le Premier ministre israélien et l'émissaire américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, une délégation israélienne se rend donc aujourd'hui dans la capitale qatarienne. Alors il faut le souligner, son mandat est réduit à la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. En d'autres termes, il s'agit notamment de l'entrée dans la bande de Gaza de quelques 60 000 maisons mobiles et de matériel de terrassement, en échange de quoi Israël espère obtenir la libération de 6 otages dans les tout prochains jours. Ce soir, réunion du cabinet de sécurité à Tel Aviv pour discuter de la seconde phase de l'accord. À l'issue de ce débat, de nouvelles instructions pourraient être envoyées aux négociateurs israéliens à Doha pour progresser vers une nouvelle étape. Rappelons, Martin, que hier, Benjamin Netanyahou a déclaré à l'issue de sa rencontre avec Mario Rubio, le secrétaire d'État américain, qu'Israël et les États-Unis avaient une stratégie commune dont les détails ne pouvaient pas tous être divulgués publiquement.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem ce matin sur RFI.
Martin, le Hezbollah appelle les nouvelles autorités libanaises à faire respecter l'accord de cessez-le-feu.
Qui prévoit un retrait des troupes israéliennes du territoire libanais demain mardi 18 février, une date déjà repoussée à la demande d'Israël. Demande formulée par le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, dans un discours télévisé, alors que l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes ce dimanche contre des sites du mouvement islamiste.
Et puis ouverture ce lundi à Paris d'un procès très attendu.
Celui de 5 djihadistes accusés d'avoir détenu des journalistes français en Syrie en 2013 au sein du groupe État islamique. Des otages nommés Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres qui ont passé près d'un an en captivité. Après des mois de supplice et de violence, parmi leurs geôliers, Mehdi Nemouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, déjà condamné à la perpétuité pour cet attentat. Le procès qui doit durer jusqu'au 21 mars prochain.
Direction la République démocratique du Congo dans ce journal. À Bukavu, précisément, présence du M23 confirmée par un porte-parole de l'armée congolaise.
Les soldats du groupe armé, soutenus par ceux du Rwanda, poursuivent leur avancée dans l'est de la RDC. Présence officiellement confirmée par les autorités congolaises dans la capitale provinciale du Sud Kivu. Le bilan des morts ce week-end à Bukavu est incertain, mais la situation humanitaire est alarmante. De nouveaux blessés de guerre viennent s'ajouter à ceux déjà pris en charge depuis le début du mois de janvier à l'hôpital provincial, établissement soutenu par le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. François Moreillon en est le chef de la délégation depuis Kinshasa.
Nous avons reçu dimanche quelques 8 blessés, samedi 2, à la fois des combattants et des civils, et des types de blessures très variées par balle ou par explosif. Ce que je peux vous dire également, c'est qu'il y a encore une centaine d'autres blessés qui auraient atteint l'hôpital de Panzi, qui est soutenu par MSF, et qui donc nous amènerait autour de 260 blessés actuellement. Suite aux pillages qui ont eu lieu dans la journée de samedi, la situation est revenue au calme. Nous avons pu mener ce dimanche une première évaluation dans la ville où nous avons identifié un certain nombre de corps. Nous allons, avec nos collègues volontaires de la Croix-Rouge de RDC, pouvoir intervenir en ville pour s'occuper de ces corps. Nous allons tout faire pour d'ailleurs éviter de créer des disparus en tentant de les identifier du mieux que nous le pouvons.
Propos recueillis par Amélie Tulle, l'Union africaine a demandé un retrait immédiat du M23 sans pour autant explicitement mentionner le Rwanda. Nous ne voulons pas d'une balkanisation de la RDC, a plaidé le commissaire paix et sécurité de l'UA, Bankole Adeoye, lors de la clôture du sommet des chefs d'État de l'instance hier à Addis Abeba.
RFI, 7h passées de 8 minutes ici à Paris. Les Européens à la relance dans la capitale française sur le dossier européen.
Le vieux continent qui veut contre-attaquer après les contacts directs entre Washington et Moscou. Les dirigeants européens mis sur la touche depuis le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine se réunissent aujourd'hui à Paris. Des Européens qui veulent faire mieux et qui veulent faire plus, selon un conseiller du président français Emmanuel Macron. Avant cette réunion informelle de chef d'État et le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui se dit prêt à envoyer des soldats en Ukraine si nécessaire pour garantir la sécurité ukrainienne. Déclaration faite à nos confrères du Daily Telegraph, correspondance à Londres de Sidonie Gaucher.
Qui veut la paix prépare la guerre. Telle pourrait être la devise du Premier ministre Keir Starmer qui annonce que le Royaume-Uni est prêt à jouer un rôle de premier plan dans l'accélération des travaux sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Dans un article paru dans le Telegraph, il confirme son soutien accru à l'armée ukrainienne, notamment grâce aux 3 milliards de livres sterling, soit 3,6 milliards d'euros par an jusqu'en 2030 au moins. Il explique craindre pour son pays si Poutine attaque à nouveau et se dit prêt à envoyer des troupes sur le terrain si nécessaire. Keir Starmer sera en visite à Paris aujourd'hui pour une réunion de sécurité en urgence afin de déterminer ce que les Européens peuvent faire pour eux-mêmes en conséquence des initiatives du président Trump sur la question de l'Ukraine. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est lui arrivé aux Émirats Arabes Unis pour établir un vaste programme humanitaire, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer dans la région. Ça se fera très bientôt, assure le président américain, sans toutefois donner une date précise.
La Corée du Sud retire DeepSeek de ses boutiques d'applications.
Comme l'Italie, la France et l'Australie, le pays avait exprimé ses inquiétudes sur la protection de la vie privée des utilisateurs, mais aussi sur la sécurité nationale, d'où émis depuis le lancement tonitruant le mois dernier du chatbot de la start-up chinoise devenue virale et devenue un véritable concurrent de ChatGPT.
L'actualité française dans ce journal, c'est la Guadeloupe qui est privée d'eau.
À cause d'une grève du principal fournisseur, à savoir le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement, l'activité tourne au ralenti pour les habitants et pour les commerçants du territoire caribéen, notamment pour les salons de coiffure, Sylvie Coffi.
Louisiane tient un salon de coiffure dans la commune de Petit-Bourg et c'est très compliqué.
Vu que les coupures arrivent instantanément, on n'a pas le temps de prévoir. Donc si nous sommes en train de faire une prestation pour une cliente, nous sommes obligés de prendre des réserves de bouteilles d'eau minérale qui coûtent déjà une petite somme et rincer les clientes à l'eau minérale.
Astrid, elle, n'a pas pu se doucher et c'est toute la famille qui est pénalisée.
Je vis sur Bemao. Mon père, lui, vit à Pointe-à-Pitre. En général, on se dit, bon, s'il y a à Pointe-à-Pitre, on va aller se doucher, récupérer de l'eau, faire des réserves et tout. Autant dire que quand on est comme ça, on est pris en otage. Donc, on peut pas faire de machine pour laver les vêtements de la semaine, pour reprendre, hein, faire la vaisselle. Quand on est à plusieurs dans une maison pour tirer la chasse d'eau, et même quand ils renvoient, c'est pas de l'eau potable. Donc voilà. Donc maintenant, il faut acheter de l'eau aussi pour pouvoir faire cuire à manger.
Et comme le dit Astrid, elle n'est pas rassurée quand l'eau courante est de retour. Alors, dans toutes les maisons, chacun achète des citernes, fait des réserves et stocke des bouteilles d'eau minérale pour pouvoir tenir jusqu'à la prochaine coupure d'eau.
Sylvie Coffi du Service France de RFI.
La fin de ce journal avec la 75e édition de la Berlinale dans la capitale allemande.
Premier grand rendez-vous de la saison en cinéma et en course pour l'Ours d'Or, la Tour de Glace réalisée par les Françaises Léonore Serrail et Lucille Adialojovic. La Tour de Glace où Marion Cotillard incarne une reine des neiges, ni vraiment libérée, ni vraiment délivrée, une reine des neiges plutôt branchée, colère froide, Elisabeth Le Carré.
Christina, une star colérique et exigeante, tourne La Reine des Neiges, adaptation du célèbre conte d'Andersen. Elle n'épargne personne sur le plateau où chacun sait bien qu'elle est à l'image de son personnage, un cœur glacé, caché sous une beauté marmoréenne. Mais voilà que la diva, incarnée par Marion Cotillard, se prend soudainement d'affection pour une jeune figurante.
Il y a un rapport de fascination, de tentative de domination aussi, et puis d'une certaine violence. C'est une femme que je voyais tomber dans la fascination qu'elle a pour une autre personne qui lui rappelle qui elle a pu être quand elle était enfant. Et c'était assez intéressant d'expérimenter ça.
Ce récit d'emprise résonne avec l'époque, mais Lucille Adialilovic lui offre les atours d'un conte de fées à l'ancienne, avec paillettes et flocons de neige en coton. Un conte de fées où l'ogresse, finalement, ne serait pas celle qu'on croit. Elisabeth Le Quéré, Berlin. RFI.
Paillettes et flocons de neige, programme de saison. Pas de neige ici à Paris, mais plein de paillettes sur RFI. Ne m'en pisse pour la suite de RFI Matin.
À tout à l'heure, Martin Guèze. À suivre sur RFI. Aujourd'hui, l'économiste Stéphane Geneste nous parle de la balance commerciale italienne. Et puis notre invitée Sylvie Goulard, ancienne députée européenne, enseignante à l'université Bocconi de Milan. Elle sera interrogée par Édouard Dupénoit. Tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous Antoine Grenier, et du football pour commencer. En Angleterre, Liverpool retrouve ses 7 points d'avance sur Arsenal en tête de la Première Ligue.
Les Reds concluent idéalement une semaine pourtant compliquée, éliminés de la Coupe, tenue en échec par leur grand rival Everton. Les joueurs d'Arne Slot sont venus à bout de 1 de Wolverhampton lors de la 25e journée. Mo Salah en a profité pour inscrire sur penalty son 23e but de la saison en championnat et offrir une victoire qui fait du bien à son entraîneur Arne Slot.
Vous savez, c'est tellement difficile de gagner un match de football. Les gens se disent toujours, c'est bon, tu as Mo Salah, il marquera toujours un but pour toi. Je le répète, mais c'est vraiment difficile de gagner un match de foot tous les trois jours après avoir déjà beaucoup joué cette saison. C'est pourquoi ce succès est très important pour clore cette semaine difficile. On a eu du caractère, maintenant c'est vrai qu'on pourrait mieux se comporter avec le ballon, c'est évident.
Dans l'autre match du jour, Tottenham a battu Manchester United qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Les Red Devils sont 15e.
On jouait en Espagne également ce week-end. Et ce soir, la 24e journée de Liga se referme.
Le Barça reçoit le Rayo Vallecano, des Catalans qui peuvent prendre la tête en cas de succès. Ça ne sera pas simple face au 3e club de Madrid, derrière le Real et l'Atlético. Le Rayo, surprenant 6e de la Liga pour l'instant. Une défaite en 12 matchs depuis le 1er décembre et 3 victoires de rang en championnat. Barça-Rayo, coup d'envoi 20h temps universel.
Et puis en France, Antoine, Lille garde la distance sur les leaders de Ligue 1.
22e journée, le LOSC inflige à Habib Bey sa première défaite sur le banc du Stade Rennais. Succès 2-0 pour des Lillois, 5e devant l'Olympique Lyonnais, vainqueur de Montpellier et 4-1. Strasbourg est 7e après sa victoire 2-0 sur le RC Lens.
On vous l'avait promis tout à l'heure, du basket, soirée de gala pour la NBA.
À San Francisco, les meilleurs joueurs de la saison étaient réunis pour le All-Star Game. Victor Wembanyama a vécu son premier match des étoiles avec à la clé une finale avec l'équipe des Global Stars dont faisait partie le Camerounais Pascal Siakam. Petite déception toutefois pour Wemby, la défaite 41-25 face au OG, l'équipe américaine.
Non, c'est pas du tout anecdotique, c'est et la déception. Et... voilà, je me dis toujours qu'on aurait pu, plus, faire plus, faire mieux. Mais bon, c'est vrai que les équipes étaient construites de manière assez spéciale et que voilà, ils ont eu de la réussite aussi en face. Je me suis pas fait d'amis effectivement, mais j'ai beaucoup appris, j'ai posé des questions. J'ai eu des franchement de joueurs incroyables. Je citerai pas de nom, même je donnerai pas d'exemple, mais j'ai posé beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de réponses très très intéressantes. C'est dur de répondre, mais j'ai vraiment aimé ce format. Maintenant, pour moi, le plus gros travail, c'est sur la motivation des joueurs. Voilà, c'est même si on sait que c'est compliqué, on sait que c'est dur. Personnellement, à ce moment de l'année dernière, j'étais en moins bonne forme. Aujourd'hui, je sens que mon corps est plus prêt. Et donc j'ai le potentiel de tout donner sur un match comme ça. Franchement, c'était vraiment sympa, j'en tire un bon souvenir.
Victor Wembanyama avec Théo Quintard, le titre de MVP, meilleur joueur de ce All-Star Game, est revenu au local de l'étape, Stephen Curry, le meneur des Golden State Warriors.
Le journal des sports, Antoine Grenier, à tout à l'heure. RFI 7h16 à Paris. Aujourd'hui l'économie avec Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Nemo.
On franchit les Alpes ce matin, direction l'Italie. On attend ce lundi les chiffres du commerce extérieur de Rome pour l'année 2024. L'occasion de nous pencher sur la balance commerciale italienne, c'est-à-dire ses importations et ses exportations. Parce que Stéphane, même si ça pourrait ne pas durer, l'Italie est championne d'Europe des exportations.
Oui, tenez-vous bien, l'Italie est le 4e exportateur mondial au pied du podium, donc derrière la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Le pays est en pointe pour vendre sa production tout autour de la planète. Les secteurs où l'industrie italienne brille, c'est la mode, l'ameublement, les matériaux, la construction et évidemment la production alimentaire et le vin. Des exportations qui sont essentielles à l'économie italienne puisqu'elles représentent à peu près un tiers de son PIB.
Mais alors Stéphane, comment expliquer ce succès pour votre voisin italien ?
Ça tient en un chiffre, Nemo, hein. 400 000, c'est le nombre d'entreprises industrielles dans le pays. C'est beaucoup, hein, puisqu'à titre d'exemple, la France en compte 250 000. La particularité de cette industrie italienne, c'est que 99% de ces structures sont des PME, des petites et moyennes entreprises. Et ce qui fait leur spécificité, c'est qu'elles sont regroupées en districts industriels, par secteur donc, comme par exemple l'agroalimentaire ou le cuir, pour ne citer que.
Et comment ça marche concrètement ?
Eh bien c'est simple, en étant regroupé, disons par secteur, cela favorise la complémentarité des entreprises. Autre aspect important, c'est que la concurrence est exacerbée dans ces tissus industriels. Conséquence, ça pousse ces structures à sans cesse innover et donc à être en pointe sur certains marchés, ce qui fait que le pays est bien intégré dans les chaînes de valeur. Et puis l'autre explication de cette dynamique italienne des exportations, elle est d'ailleurs beaucoup plus simple à comprendre, c'est que produire en Italie coûte moins cher que dans d'autres pays européens. Résultat, les produits sont vendus moins cher, ce qui rend l'industrie italienne plus compétitive que les autres.
Alors les chiffres des exportations italiennes vont être publiés dans moins de 2 heures. Est-ce que cette dynamique va se poursuivre ?
Alors vraisemblablement pas. La croissance italienne est à peine positive, cela signifie que la production stagne. Dans certains secteurs, elle est en chute libre, à moins 43% l'an passé par exemple pour la production automobile, expliquée notamment par les difficultés du groupe Stellantis. C'est difficile aussi pour des secteurs porteurs de ces exportations comme la mode ou encore la métallurgie. On notera aussi que d'un côté la population vieillit, de l'autre les jeunes ne veulent plus travailler dans la production industrielle, le modèle italien qui arrive petit à petit à bout de souffle.
Ça c'est explication, en tout cas côté italien. Mais les acheteurs, eux, sont-ils, Stéphane, toujours au rendez-vous?
Non plus, hein, c'est là bien qui complique la situation. L'Allemagne, qui est le partenaire commercial principal de l'Italie, importe moins en raison de ses propres difficultés économiques. Ça se maintient, en tout cas côté américain. Deuxième client du pays, les entreprises américaines, qui ont d'ailleurs dû faire du stock ces derniers mois avant l'entrée en vigueur d'éventuels droits de douane à l'encontre des pays membres de l'UE. Selon Confindustria, la fédération des entreprises italiennes, cette nouvelle taxation pourrait coûter entre 4 et 7 milliards d'euros par an à la péninsule. Mais c'est sans compter sur Giorgia Meloni, qui entretient des liens étroits avec Donald Trump. Une relation qui pourrait peut-être lui permettre d'obtenir des passe-droits.
Les chiffres du commerce extérieur italien pour 2024, publiés dans moins de 2 heures. Merci Stéphane Genest et à demain. Édouard Dupénoit nous a rejoint dans le studio 31 après une conférence de Munich sur la sécurité tumultueuse ce week-end, marquée notamment par des passes d'armes. Sylvie Goulard, ancienne députée européenne, enseignante à l'Université Bocconi de Milan, est votre invitée, Édouard.
Sylvie Goulard, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais revenir quelques jours avant cette conférence de Munich qui s'est déroulée ce week-end, puisque dès le mi-temps de la semaine dernière, on apprenait que le président américain Donald Trump s'était entretenu avec Vladimir Poutine, son homologue russe, pour lancer des pourparlers de paix autour de l'Ukraine, dont, à l'heure actuelle, les Européens semblent exclus. Après cet entretien et après cette conférence de Munich ce week-end, Sylvie Goulard, est-ce que l'Europe se réveille avec la gueule de bois ?
J'espère qu'elle se réveille surtout tout court, parce qu'effectivement, ce que les autorités américaines ont dit est préoccupant, mais pas non plus totalement surprenant. Ça fait des années que les administrations démocrates soulignaient le besoin pour l'Europe de faire plus d'efforts pour sa propre défense. Et quand je dis effort, je dis pas seulement un pourcentage du PNB comme on entend tout le temps. C'est une sorte de préparation mentale à devenir totalement adulte et à être capable de se défendre collectivement, alors que la guerre est déjà sur le territoire européen.
Vous avez un verdict déjà sévère. Vous dites vous espérez que l'Europe se réveille tout court. Pour vous, ça fait des années, si ce n'est des décennies, qu'elle est endormie ?
Sur le plan de la politique étrangère et de la défense, sans faire de mauvaises polémiques, et même si beaucoup de gens y travaillent activement, je crois que l'Europe ne pèse pas son poids dans le monde et qu'elle ne s'est pas organisée pour peser. Lorsque j'étais sous-gouverneur de la Banque de France, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans la filière finance, où allaient les gouverneurs et les ministres des finances, pour la Chine, il y avait 2 représentants. Pour les États-Unis, il y avait 2 représentants. Pour l'Arabie Saoudite, pour l'Inde, pour tous les grands pays du monde, 2 représentants. Savez-vous combien il y avait de représentants de l'Union européenne ? 11. Plusieurs ministres des Finances, plusieurs gouverneurs de banques centrales, la présidente de la BCE, la présidente tournante de l'Union, la Commission européenne. Donc si nous voulons peser, nous pouvons nous organiser pour peser plus.
Manière de souligner que l'Europe n'a jamais parlé d'une seule voix ?
Et pourquoi on parle d'une seule voix ? Il faut qu'il y en ait qui se taisent. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut se partager les tâches de manière équitable, avec des rotations, avec des, en tenant compte des contributions de chacun. Mais très sincèrement, le monde a changé. Et tous les pays jeunes et dynamiques, parfois agressifs, qui nous entourent, ne vont pas tolérer une horde d'Européens. Ils voudront avoir des interlocuteurs extrêmement identifiés et capables, ensuite, par exemple, s'agissant de l'Ukraine, d'aligner des garanties de sécurité. J'étais dans la salle à Munich, j'y suis encore, quand vous entendez le discours du vice-président américain, mais quand vous entendez aussi et surtout les appels à l'aide de Monsieur Zelensky, qui nous dit que cette guerre n'est pas la guerre de l'Ukraine, mais que c'est la guerre de la Russie contre l'Europe, la Russie de Vladimir Poutine évidemment, pas tous les Russes, eh bien, je crois qu'il faut entendre.
Mais alors, vous parlez du discours du vice-président américain qui effectivement a sidéré une bonne partie de l'assistance. Les images sont éloquentes quand on voit les quelques applaudissements polis qui concluent ce discours, où il estime notamment que le plus grand danger à ses yeux pour l'Union européenne, ce ne sont ni la Chine ni la Russie, mais l'abandon de certaines de ses libertés fondamentales. Est-ce que pour vous, c'est un électrochoc qui est de nature à réveiller l'Europe ou à la diviser davantage ?
Non, ce qu'on a senti dans les couloirs et dans les discussions, c'était vraiment une certaine gravité que je n'avais pas perçue jusqu'à présent et une volonté de riposte. Et encore une fois, je crois qu'il faut que nous fassions ce que nous croyons juste. et ce que nous estimons pouvoir faire. Et nous avons construit des choses en Europe. Quand nous avons fait une monnaie unique, beaucoup de gens nous riaient au nez, nous y sommes parvenus, nous l'avons défendue, y compris dans la crise. Donc nous sommes capables de faire des choses à condition de s'engager dans un travail, et j'insiste sur ce mot, un travail, en écoutant les opinions, en écoutant les pays qui sont en première ligne. C'était très intéressant de discuter avec les Baltes, les Polonais, tous ceux qui sont en première ligne et parfois d'ailleurs envahis, comme les Moldaves. La menace russe est réelle. La France dispose d'un certain nombre d'atouts, par exemple sa force de frappe. Elle a besoin de travailler plus avec ses partenaires européens. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que le président de la République a réuni un sommet aujourd'hui.
Justement, j'allais venir à cette réunion, cette convocation dont on a appris la tenue hier en milieu d'après-midi, avec une demi-douzaine des homologues européens d'Emmanuel Macron, mais aussi le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne ou encore le secrétaire général de l'OTAN qui sont attendus à Paris. Jean-Noël Barrot a essayé de déminer les questions avant l'heure en parlant d'une réunion habituelle sur un format qui se tenait souvent. On a quand même un peu l'impression d'une réunion alerte rouge.
Écoutez, la réunion se tient, c'est l'essentiel. Le dialogue, effectivement, va réunir un certain nombre de pays et les représentants des institutions, ce qui est important aussi. C'est trop tôt pour dire ce qu'il en sortira. L'Allemagne est dans la dernière ligne droite de la campagne électorale pour désigner le futur chancelier. Donc, c'est la dernière semaine avant l'élection. C'est pas évident pour nos amis allemands. Mais j'ai été très frappée par la réaction des autorités allemandes à une ingérence d'abord politique dans le débat intérieur allemand, et une leçon basée très largement sur des informations fausses du vice-président américain.
Donc, vous faites référence à la rencontre, à l'entretien que J.D. Vance a eu avec Alice Weidel de l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite.
Le vice-président américain a eu ce rendez-vous et dans son discours, il a aussi fait des allusions à des déficiences de nos politiques. Encore une fois, on est dans des démocraties, contrairement à ce qu'il dit, donc il peut dire effectivement ce qu'il veut. Mais il a indiqué, il a donné des exemples qui pour certains étaient faux d'atteinte à la liberté dans nos pays. Je crois qu'il faut que nous, comme l'ont fait les autorités allemandes, nous disions simplement que tout ceci n'est pas acceptable et que donc nous en tirerons toutes les conséquences. Et effectivement, l'interférence dans un processus électoral, ça n'est pas très démocratique non plus. Surtout quand ça se fait avec des moyens de type de ceux dont disposent les détenteurs de réseaux sociaux.
Alors revenons-en à cette réunion qui se tient cet après-midi à Paris. On a l'impression effectivement, alors pour citer une fois encore Jean-Noël Barrot, il parle d'un vent d'unité qui souffle sur l'Europe comme il n'en a pas connu depuis la période du coronavirus. Le Premier ministre britannique affirme dans la presse que l'envoi de troupes britanniques sur le territoire ukrainien n'est plus exclu. On a l'impression en tout cas qu'à l'ouest de l'Europe, ces déclarations à l'emporte-pièce des États-Unis recimentent une certaine unité qui était perdue. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas aussi à l'Est? Vous évoquiez les pays baltes, les plus exposés à une éventuelle menace russe.
La situation est préoccupante parce qu'effectivement, pour un certain nombre de pays européens et même en partie pour la France, nous appartenons à l'OTAN et la protection américaine, au-delà de tous les traités qu'on signe, la réalité de la puissance militaire américaine qui, je le rappelle, dépense près de 900 milliards par an pour sa défense, était la raison pour laquelle, avec la construction européenne, nous avons vécu en paix. Pour les pays d'Europe centrale et orientale, pour les Baltes, pour la Pologne, un éventuel retrait des États-Unis, il faut rester calme dans son évaluation, pour l'instant il n'est pas sur la table, marquerait un changement considérable. Je crois qu'il faut que nous prenions tous nos responsabilités, que nous fassions comprendre aux populations aussi qu'il s'agit de préserver la liberté, de préserver la paix. L'Europe n'a jamais eu des visées impérialistes. L'Ukraine a été agressée, contrairement au droit international, et les agressions pourraient avoir lieu ailleurs, le cas échéant, si nous ne prenons pas des mesures pour nous défendre et surtout dissuader ceux qui voudraient nous agresser.
Sylvie Goulard, je vous remercie d'avoir été l'invitée de RFI ce matin, de nous avoir accordé quelques minutes. Je rappelle que vous êtes ancienne députée européenne, enseignante à l'Université Bocconi de Milan et que depuis le mois de décembre, vous faites partie du conseil de la fondation de cette conférence de Munich sur la sécurité. Merci beaucoup.
Entretien Merci. Entre Sylvie Goulard et Édouard Dupénoit à retrouver sur notre site internet RFI.fr et sur notre application RFI Pure Radio.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
toutes vos questions en direct sur l'activité physique et la santé.
Demain,
Quand l'écriture guérit, un refuge, une thérapie.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
Je vous retrouve tous les jours de la semaine pour un journal d'information internationale.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez lentement. Il n'y a pas de mots qui m'échappent et je peux saisir toutes les nouvelles sans faire aucun effort.
10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Le journal en français facile,
c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.